Est-ce que vous seriez d'accord avec moi que chrétiens, nous sommes appelés à être une race de vainqueurs? Amen. Même dans la prière de Denis tout à l'heure, c'était dans ce sens-là que c'est Jésus le vainqueur et nous marchons dans ses traces. Et moi, j'ai le souvenir, jeune chrétien, quand je lisais la Bible, quand je tombais sur des versets, surtout dans l'Apocalypse. Voilà, vous avez plusieurs versets de l'Apocalypse qui parlent du vainqueur. Et ça, chaque fois que je les lisais, je me dis, oui Seigneur, je veux être de cette race-là. Je veux être un vainqueur. Donc il y a, au vainqueur, je donnerai autorité sur tous les peuples. Au vainqueur, je donnerai à manger le fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu et bien d'autres. Et ça fait plaisir, n'est-ce pas, de penser que nous sommes de cette race-là. Maintenant, dans la vie de tous les jours, c'est peut-être pas toujours aussi évident, n'est-ce pas? Nous sommes de cette race-là, mais il y a tellement de situations qui arrivent autour de nous où nous disons, eh bien, je suis vainqueur dans cette situation-là, dans un monde qui parle de paix et qui prépare la guerre. Dans une société d'abondance, mais où nous défendons à tout prix, et je pense que cette semaine, il y a beaucoup qui vont défendre le droit et le privilège. Nous vivons dans une société évoluée, mais où il n'y a plus le fondement solide et où toutes les valeurs de bien et de mal, d'éthique et de relations les uns aux autres, de sexualité, sont remises en question. Nous vivons en tant que chrétiens où notre victoire n'est pas peut-être la partie la plus visible de notre foi. Nous avons chanté tout à l'heure. Souvent, quand j'apporte le message, pendant la louange avant, il y a un chant. Je dis, waouh, Seigneur, ça c'est pour mon message. Et j'arrive au message, je ne trouve plus les paroles. Donc cette fois-ci, j'ai sorti mon téléphone, c'est pour ça. Ils ont dit d'éteindre les téléphones avant le culte, mais je ne l'ai pas fait. Hein. Nous avons chanté, déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues, Jésus sur les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus pour nos familles, proclamant sans sa nom, le nom de Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie, tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Oui, c'est la vérité. Mais quand, des fois, le lendemain matin, nous partons au travail pour découvrir que nous sommes licenciés, on se dit, bon, Seigneur, tu règnes, je suis appelé à être victorieux, vainqueur, et voilà ce qui m'arrive. Où est la victoire? Est-ce que j'ai l'autorité, comme dans l'un de ces versets, est-ce que j'ai l'autorité pour changer les choses? Oui, si c'est la volonté de Dieu. Mais des fois, notre volonté et la sienne ne sont pas tout à fait les mêmes, n'est-ce pas? Et la victoire principale que nous sommes appelés à avoir, c'est la victoire sur nous-mêmes, la victoire sur nos réactions, la victoire sur la vieille nature et la victoire de Jésus qui se manifeste dans les hommes et les femmes que nous sommes tous les jours. Donc ce matin, je veux prendre un texte, ce n'est pas l'un de ces textes-là, mais un texte dans l'épître de Tite. Là, si vous avez des Bibles en papier, vous allez bien chercher pour la trouver, parce qu'il n'y a que 4 chapitres, et donc c'est tout petit, juste avant les Hébreux, dans votre Nouveau Testament. Donc ça va être dans Tite 2, les versets 11 à 14. Et l'épître de Tite, c'est donc l'épître de Paul à Tite. Et Paul a écrit les lettres à Timothée et les lettres à Tite parce que Paul était un implanteur d'église. Il parcourait le monde, annonçait l'évangile, amenait des personnes à Christ, formait des églises, nommait des anciens et puis il partait plus loin. Et il fallait rapidement que les nouveaux chrétiens et ceux qui grandissaient vite dans la foi, qu'ils puissent les nommer comme responsables pour que lui, il passe plus loin. Et les lettres de Timothée et de Tite sont surtout des conseils pour être de bons leaders. Alors, vu que nous sommes sur le point de démarrer l'ACBM Academy pour l'école de disciples, il me semble que c'est un bon sujet à prendre entre nous, mais c'est surtout, non pas pour être des responsables, nécessairement, mais pour être de l'étoffe pour être responsable. C'est d'avoir cette victoire dans nos vies qui ouvre des portes pour servir le Seigneur à sa gloire. Donc, que je retrouve le bon appareil et je passe plus loin. Oui, souvent dominé par les autres, comme j'ai dit, pour quand nous avons des patrons qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que nous et que des fois nous demandent des choses que nous ne voudrions pas faire et que nous sommes appelés à être victorieux dans cette situation-là. Tite 2, verset 11. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Et nous y trouvons 4 éléments que nous allons regarder ensemble pour vivre pleinement une vie chrétienne victorieuse. Amen. Alors, la première chose, c'est notre professeur personnel, la grâce. Et donc, nous venons de le lire, ce texte, mais dans ce début de texte, nous lisons, en effet, la grâce de Dieu s'est révélée. La grâce de Dieu, elle nous éduque. Donc, c'est ça, notre professeur personnel. La grâce de Dieu nous éduque. Comment ça? Ben, la grâce de Dieu nous éduque quand tout va mal. Parce que c'est là où nous aussi, nous sommes appelés à faire grâce, n'est-ce pas? Nous avons besoin de la grâce de Dieu en nous, mais nous avons besoin de la patience, nous avons besoin du calme, nous avons besoin de la maîtrise de soi, nous avons besoin de pouvoir traverser ces moments dans la joie, même quand ça ne va pas bien. la grâce de Dieu. Seigneur, par ta grâce, tout est possible. Et la grâce nous forme pendant que nous sommes au travail aussi. Quand notre patron nous humilie, la grâce nous enseigne le calme et l'intégrité. Cette semaine, avec les manifestations qui sont appelées à avoir lieu, la grâce va nous enseigner à être mûrs et à réagir dans la justice et la droiture. Quand des fois nos collègues complotent contre nous, la grâce nous enseigne la sagesse pour savoir comment réagir. Quand la pression monte, la grâce nous donne cette paix surnaturelle qui fait que, malgré tout ce qui se passe autour, nous demeurons en Christ et nous pouvons, nous devons, n'est-ce pas, garder la paix de Dieu dans ces situations. Un exemple que j'ai lu, Marie, une mère célibataire avec trois enfants, elle a été licenciée à l'âge de 45 ans. Et dans son cas, au lieu de choisir de passer par le prud'homme pour contester son licenciement, la grâce de Dieu dans la prière l'a fortifiée et lui a montré la voie pour créer sa propre entreprise. Et aujourd'hui, elle emploie 8 personnes. Elle a vécu une épreuve, mais elle a su, avec la grâce de Dieu, la tourner en bien. Et quand nous ne pouvons pas vaincre le mal chez les autres, nous pouvons souvent trouver un moyen de réagir à la gloire de Dieu dans ces situations. La grâce, ce n'est pas une garantie de victoire, c'est un potentiel de victoire. Je pense que je l'ai. Oui, voilà. Pas une garantie de victoire, mais un potentiel de victoire. Parce que la grâce de Dieu pour nous chrétiens est toujours là. La grâce de Dieu est disponible. Mais dans ces moments d'épreuve, nous préférons parfois agir par la colère. Nous préférons agir par nos propres forces, nos propres idées, faire notre volonté. Mais la grâce de Dieu nous donne le potentiel de dire « Oui, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. » Et toujours dans le même texte, « Ainsi nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. » C'est un bon texte, n'est-ce pas, pour cette semaine, pour nous garder sages. Pendant que vous cherchez un emploi, peut-être, Dieu développe votre caractère. Pendant que vous gérez des enfants ou des ados un petit peu rebelles, il forge votre patience. Pendant que vous luttez financièrement, il éprouve et fortifie votre foi. La grâce de Dieu nous éduque. Et qui parmi nous ce matin peut reconnaître que c'est souvent dans la galère que Dieu nous a le plus transformés? Eh oui. Et on peut regarder en arrière, c'est mieux en arrière, n'est-ce pas, qu'en face, l'épreuve, et dire, bon, Seigneur, tu as été bon, Tu m'as soutenu, tu m'as aidé, et j'en sors vainqueur. Amen. Notre motivation ultime, la gloire de Dieu. La gloire, j'ai mis des points de suspension parce que, humainement parlant, et nous le voyons un peu dans le monde politique, n'est-ce pas, ce que nous cherchons en premier, humainement parlant, c'est notre gloire, le pouvoir. C'est avoir la victoire, non pas sur nous-mêmes, mais sur les autres. Avoir le pouvoir sur les autres. Et ce texte nous dit que c'est en attendant la révélation de la gloire de notre Dieu. Nous travaillons pour qui, en fin de compte? Pas juste pour notre patron terrestre, pas simplement pour nourrir notre famille, mais nous travaillons pour le roi des rois, le créateur de l'univers. Et c'est sa gloire que nous devons rechercher. Ayant dit cela, Dieu nous destine aussi à la gloire. Surtout, n'est-ce pas, au ciel. Il y aura des récompenses. On parle du dernier, le jour du jugement, mais pour les croyants, ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, la dette a été payée, n'est-ce pas, par Jésus. Donc il n'y a plus de jugement là, puisque tout est payé. Donc pour nous, chrétiens, le dernier jour, le jour de jugement, c'est plutôt la remise des prix. C'est là où Dieu nous récompensera pour tout ce que nous avons fait en son nom. La gloire. Nous participerons à la gloire de Dieu. Nous régnerons avec lui. Ça, c'est aussi un texte de l'Apocalypse. Nous régnerons avec lui. Donc nous aurons, si nous n'avons pas eu de promotion au travail, nous aurons notre promotion au ciel. Et ce sera bien mieux. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Donc le plus important est ce que Dieu prépare pour nous et nous aurons notre récompense à l'avenir, mais nous pouvons aussi avoir du succès dans cette vie-ci, dans notre métier, dans la société. On peut être un chrétien bien reçu, bien vu et avoir une place dans la société où nous pouvons servir Dieu. Et donc, Dieu peut nous donner la victoire, dans ce sens, déjà ici-bas. Il y a un autre texte dans Marc qui en parle. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'Évangile, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, suspense. Il recevra 100 fois plus dès à présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. C'est un beau mélange, ça. Hein? Il y a 100 fois plus ici-bas. Donc là, ça nous donne l'idée que oui, je vais réussir dans tout ce que j'entreprends. Il y a des textes bibliques qui vont dans ce sens-là. Et c'est possible, si c'est le plan de Dieu, il va ouvrir toutes les portes. Mais les 100 fois plus dès à présent, par exemple, nous, juste mercredi, nous étions encore avec mon père en Angleterre qui fêtait lundi son 101e anniversaire. Et on a passé aussi pendant les vacances chez notre fille et les petits-enfants et chez notre fils et les petits-enfants. Donc, la famille. Sauf que, donc j'ai deux enfants, nous avons deux enfants et trois petits-enfants et un père. Mais ici, j'ai 100 fois plus, n'est-ce pas? La famille de Dieu. Et notre famille, nos familles sont, familles terrestres, sont loin, on les voit peu souvent. Mais vous, on vous voit au moins une fois par semaine, c'est déjà pas mal. Hein? Et c'est surtout les bénédictions, ici les 100 fois plus, ce n'est pas nécessairement matériellement, mais spirituellement, que nous aurons cette bénédiction, cette victoire spirituellement, éventuellement matériellement aussi. Mais ne cherchons pas en priorité les choses matérielles, mais les choses spirituelles. Je vais passer directement à délivrer de toute obéissance. Et ça, c'est un peu la partie clé pour moi de ce message. C'est ce texte qui m'a parlé et qui fait que je vous parle de cela ce matin. Parce que c'est une victoire, une promesse de victoire, une possibilité de victoire qui est extraordinaire. Verset 14. Il s'est livré lui-même pour nous afin de nous délivrer de toute désobéissance. Afin de nous délivrer de toute désobéissance. Et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mène toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Afin de nous délivrer de toute désobéissance. Vous vous rendez compte? Jésus s'est donné lui-même. Pas d'argent, pas les animaux en sacrifice, mais sa propre vie pour nous racheter. Et le mot à l'origine de grec dans ce texte, c'est le mot que nous traduisons comme « rançon ». Il s'est donné comme un rançon pour nous délivrer. Il a donné sa vie afin que nous soyons libres. Ça, vous le savez. Mais de quelle liberté s'agit-il? C'est la liberté d'être libéré de l'emprise du mal, l'emprise du péché dans nos vies. J'ai repris ce texte vendredi soir, nous avons eu notre groupe de maison, et donc c'est chacun qui a donné, on a fait le tour de table, et chacun a donné ses idées, les mots qui lui ont parlé dans ce texte. Et quelque chose est sorti que je m'y attendais et que je pense que pour nous tous, quand on parle d'être délivré du péché, quelqu'un a dit, ah oui, mais on retombe toujours. On a déjà fait un message là-dessus. Hein, mais est-ce que nous sommes condamné à pécher. Est-ce que nous sommes condamnés à faire le mal? Nous reconnaissons tous, et quand on se connaît, on ne peut pas se cacher. Donc si nous, même les cinq pasteurs, c'est un appareil médical, excusez-moi. Si les cinq pasteurs, on se mettait ensemble sur l'estrade et on vous disait, grâce à Dieu, nous sommes parfaits. Qui c'est qui a ri là? Qui c'est qui a ri là? Et oui, parce qu'en effet, il ne faudrait pas longtemps quand même pour prouver que nous nous trompons en disant que nous sommes parfaits. Et ça, c'est un peu le piège de cette idée-là. Il y a un enseignement, une doctrine chrétienne qui parle de la perfection en tant que chrétien. John Wesley, donc le fondateur des églises méthodistes, a été l'un de ceux qui ont prêché le plus de cette idée-là, que nous sommes délivrés de toute désobéissance, donc nous pouvons marcher dans la pureté, nous pouvons être, nous sommes appelés à être des chrétiens parfaits. Nous sommes appelés à être libérés de tout refus de l'autorité de Dieu dans nos vies. Nous sommes appelés à être libérés de la convoitise qui place nos désirs avant sa volonté. Nous sommes appelés à être libérés de la colère qui rejette son amour et du mensonge qui déforme sa vérité. Dans nos familles et dans nos emplois déjà, nous sommes appelés à être libérés de l'amertume contre nos supérieurs qui nous rongent, de la malhonnêteté qui semble des fois nécessaire pour s'en sortir, du découragement qui nous fait baisser les bras. Et dans nos familles, nous sommes appelés à être libérés des explosions de colère qui détruisent nos relations, des habitudes destructrices transmises de génération en génération, de l'orgueil qui nous empêche de demander pardon. Dans nos finances, nous sommes appelés à être libérés de la peur qui paralyse nos décisions, de l'avarice qui détruit notre générosité et du mensonge qui veut cacher nos difficultés. Dieu veut pour nos vies une transformation radicale. Nous ne sommes plus esclaves, nous ne sommes plus obligés de pécher. Et encore dans Romains 6, nous lisons, « Sachant bien ceci, l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ pour que le corps du péché soit rendu inactif, pour que le corps du péché soit rendu inactif et que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Et donc, c'est dans ce contexte que Wesley et d'autres ont parlé de la perfection chrétienne. Donc, Wesley, les églises méthodistes, l'armée du salut, partagent aussi cette doctrine, l'église du Nazaréen. Mais c'est une doctrine un peu polémique pour les raisons que je vous ai expliquées. Parce que comment proclamer que nous pouvons, nous sommes appelés à être parfaits et reconnaître que nous sommes en réalité loin de la marque. Et je pense que l'équilibre, toujours difficile à trouver l'équilibre, n'est-ce pas? Mais je pense que, oui, Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ce texte nous parle d'être délivrés de toute désobéissance. C'est la volonté de Dieu pour nous. Mais tellement souvent, nous n'utilisons pas la grâce à notre disposition, le potentiel, mais nous nous donnons les excuses. Ah oui, oui, mais c'était plus fort que moi. Et oui, je veux marcher pour le Seigneur, mais vous savez, dans ce monde, et on se trouve toujours des excuses, n'est-ce pas? De bonnes excuses, oui, mais des excuses quand même. Et Dieu veut plutôt que nous passions de l'autre côté, de dire non, je suis appelé à être victorieux. Victorieux surtout sur moi. Victorieux sur tout ce qui m'éloigne de Dieu. Tout ce qui m'éloigne aussi des autres dans la famille, au travail, etc. Il nous appelle à vivre ce pourquoi il nous a rachetés. Il a payé le rançon pour cela. Non simplement pour que nous puissions aller au ciel, mais pour que nous puissions être à sa ressemblance. Vous savez qu'il y a un autre texte qui dit que quand nous serons transformés en son image, quand nous le verrons face à face. Là, c'est tout sera accompli pour nous aussi à ce moment-là. Mais c'est tous les jours que nous avons les défis de dire comment vais-je réagir? Est-ce que je vais agir en tant que chrétien libéré, chrétien victorieux, ou est-ce que je vais ressortir mes bonnes excuses pour ne pas être à la hauteur? Nous ne sommes plus condamnés à pécher. Dans ce texte, ne soyons plus esclaves du péché. Nous pouvons, je pense, tous témoigner de domaines de nos vies où nous avons été libérés, où il y a eu des chaînes de briser, des liens de briser pour que nous entrions dans cette liberté-là. Et c'est surtout cette question de foi en ce que Jésus a accompli pour nous. Et quand nous... soyez parfaits. Et dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Là, c'est Romains 8. Libérés. Est-ce que vous êtes libérés? En principe, la grande majorité dans la salle le sont, mais vous n'osez plus le dire maintenant que je vous dis que le niveau doit être plus haut. Et dernier point, justement, parce que nous sommes libérés, nous devenons le peuple de Dieu pour la gloire de Dieu. Et donc, c'est toujours dans le texte, toujours dans verset 14, de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne, qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Parce que nous sommes libérés, parce que nous sommes transformés, parce que nous sommes rachetés, nous pouvons accomplir ces œuvres bonnes pour la gloire de Dieu. Non pas pour pour gagner notre salut, c'est Jésus qui l'a payé, mais par reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes le trésor de Dieu. Un trésor particulier, délivré, purifié pour être à sa gloire. Dieu veut être fier de nous. Nous sommes fiers de lui. Ça, c'est facile puisqu'il est parfait. Mais il veut être fier de nous parce qu'il veut nous voir à la ressemblance de son Fils Jésus. Je ne sais plus ce que j'ai effacé. Voilà. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car notre union avec Jésus-Christ, car Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Toujours pour la gloire de Dieu. Alors, question. Cela change quoi pour demain matin? Parce que je pense que je n'aurai pas trop de contradicteurs ce matin au culte. Mais est-ce que si nous voyons chacun de nos frères et sœurs demain matin au travail, est-ce qu'on aurait une aussi bonne impression? Pas évident, n'est-ce pas? Mais Paul, dans ce texte-là, ce n'est pas de la philosophie. Il nous donne, dans les versets précédents, on ne va pas aller dans le détail, mais dans les versets précédents, le même chapitre, c'est du concret. Sur le lieu de travail, donc si vous lisez tous les dix versets, vous aurez plus d'explications. Que les serviteurs soient soumis à leur maître, ainsi ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. C'est en acceptant les ordres du patron, en s'y conformant, bon, il y a des fois où on ne peut pas, quand ça va contre la volonté de Dieu, mais en général, c'est lui le chef, n'est-ce pas? Et notre meilleur témoignage, c'est de faire bien notre travail. Après, il peut ouvrir des portes pour parler de lui, mais c'est rendre attrayant l'enseignement de Dieu, notre Sauveur, qui est notre appel. Donc, vous arrivez à l'heure parce que vous représentez Jésus. Vous faites du bon boulot. Vous prêchez, surtout sans parler au travail, à moins que le Saint-Esprit vous ouvre une porte évidente. Et là, vous aurez justement la voix libre pour parler. Vous gardez votre calme dans la crise. Vous êtes un serment vivant. C'est le meilleur témoignage au travail. Et nous pouvons penser à Daniel, donc le prophète du livre de l'Ancien Testament. Daniel qui était en captivité, lui. Et à cause de l'excellence de son travail, de son intégrité, il a été une influence extraordinaire pour Dieu dans ce contexte. Dans nos relations familiales, tout un texte, mais je lis juste ce qui est en bleu. Là. Pour les hommes, faire preuve de modération, d'être respectable. Pour les femmes, c'est femmes âgées dans le texte, mais je me permets de l'appliquer aux plus jeunes aussi, un comportement digne de Dieu. Et pour les jeunes gens, agir de manière réfléchie. Parce que je ne sais pas pour vous, mais des fois nous trouvons que les jeunes agissent d'abord et réfléchissent après. Mais bon, c'est juste un point de vue. Et donc, il y a, je ne le maîtrise de soi aussi dans ce contexte. Donc, on peut résumer aussi pour avoir cette victoire dans la vie de tous les jours. Côté financier, pas de petits mensonges dans la déclaration d'impôt, pas de travail au noir, pas de combinaison douteuse pour joindre les deux bouts. Fidélité dans les dîmes et les offrandes, même quand c'est serré. Ces petits témoignages-là, c'est beau de voir quand c'est un peu juste et que nous mettons à part la part de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, en premier, de voir combien il fait des miracles pour que ça marche. Patricia et moi, on en a partagé récemment quand nous avons fait nos études de théologie. Au milieu, on est venu en France pour servir le Seigneur pendant les vacances. On est rentré et il fallait payer la deuxième année. Et donc, je suis passé chez la secrétaire et vous avez votre chèque. Et il dit, pas pour l'instant. Et il m'a dit, alors, qu'est-ce que vous faites là? Mais j'ai dit, je crois que Dieu nous veut là et je crois qu'il va pourvoir. Dans le courrier, lendemain matin, un chèque d'un médecin de mon église d'origine que je n'avais pas vu depuis 18 mois, qui disait, bonjour Christophe, dans mon temps de prière, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur que vous devez avoir besoin d'aide en ce moment. Et il a envoyé un chèque qui a couvert déjà le premier trimestre. Et Patricia a vécu quelque chose de semblable. Quand nous mettons Dieu à la première place, il nous donne la victoire, même si c'est une épreuve sur le moment. Côté familial, je l'ai affiché aussi, demandez pardon et discutez des meilleurs moyens de résoudre les problèmes, parce qu'il y en a toujours dans nos familles, parce que nous y sommes. Honorez et respectez le rôle de chacun dans la famille. Mettre les autres en premier au lieu de faire valoir vos droits. Ça, nous voulons le faire, je l'ai déjà dit, au travail, mais je pense que c'est surtout dans la famille que nous nous sentons que les autres ne font pas assez et c'est nous qui faisons trop. Et donc là, on se sent blessé et on réagit. Si nous mettons les autres en premier, nous n'aurons plus cette réaction, n'est-ce pas? Et puis côté, c'était déjà là, côté témoignage au travail, au voisinage, ne pas nous imposer, mais chercher à être agréable et utile, et cela ouvrira des portes. Proposer des solutions, plutôt de critiquer les décisions du patron. En tout, cherchons à ressembler à Jésus. Et nous poser la question, c'est le titre d'un livre, « Que ferait Jésus à ma place ?»« Que ferait Jésus à ma place ?» Lui, le grand vainqueur, il va nous montrer comment être vainqueur dans nos différentes situations. Vivre en vainqueur, vous qui étiez liés, vous êtes aujourd'hui libres. Vous qui étiez vaincus, vous êtes des vainqueurs. Et vous qui étiez sans espoir, vous avez une destinée auprès de Dieu. Entrant dans la promesse, saisissant la victoire que Dieu veut dans nos vies. Et dans Tite chapitre 3, cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses avec insistance, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les bonnes œuvres. Seigneur Jésus, merci de nous avoir rachetés de toute désobéissance. Nous refusons de continuer de vivre en esclaves. Cette semaine, nous voulons vivre comme un peuple précieux. Que nos collègues, nos familles, nos quartiers voient la différence. Qu'ils voient Jésus en nous. Nous sommes libérés pour vaincre à ta gloire. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen.